La bonne graine. Un podcast entièrement réalisé à la main.
Bonjour, bienvenue sur le podcast de La Bonne Graine, l'école d'ameublement de Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélissa et Baptiste qui viennent nous parler de leur projet. Alors, je vous laisse vous présenter.
Alors, bonjour, moi c'est Baptiste, du coup je suis ébéniste et je suis à la tête de Glu.
Bonjour, moi je suis Mélissa et je suis apprentie ébéniste à La Bonne Graine et je suis également la compagne de Baptiste et donc un peu à la tête de Glu aussi.
Alors, avant de parler de Glu et de votre projet, qu'est-ce que vous avez fait avant l'ébénisterie? Comment vous en êtes arrivé dans ce milieu?
Alors moi du coup j'ai un parcours un peu classique jusqu'au bac en fait, où je me suis cherché. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de manuel, mais j'ai attendu de mûrir un peu le projet. Et mon voisin était fleuriste et j'ai toujours admiré ce qu'il faisait. C'est un aspect aussi très créatif, un métier créatif et manuel. Et je me suis renseigné, j'ai visité différentes écoles. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'ébénisterie et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'ai fait mon CAP ébéniste après un bac classique.
Du coup, après votre bac et après votre CAP ébéniste, quel est votre parcours après le CAP ébéniste?
Bah du coup, je me suis rendu compte que l'ébénisterie, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc après ce CAP que j'ai fait en un an, j'ai voulu continuer, donc j'ai fait un bac pro ébénisterie. Voilà, et toujours par la suite, après avoir eu ce bagage technique, ce qui m'intéressait, c'était aussi de découvrir un peu plus l'aspect créatif. Et donc j'ai fait un diplôme des métiers d'art en ébénisterie. Donc voilà, l'équivalent du BTS, donc un bac plus 2. Et ensuite, j'étais à Strasbourg pour étudier le design produit. Donc voilà, pour allier un petit peu tout ça, à la fois la création et la réalisation. C'est ce qui me plaisait dans ce projet.
Et du coup, vous, Mélissa, comment en êtes-vous arrivée à faire de l'ébénisterie?
Alors moi, j'ai rien à voir avec l'ébénisterie au départ. J'ai fait une fac de sociologie et ensuite j'ai fait un diplôme en marketing communication. J'ai travaillé chez Yves Rocher en tant que chef de produit en développement produit, donc vraiment rien à voir. Et je croise la route de Baptiste il y a 7 ans, et donc forcément, il me parle de son métier, de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que petit à petit, je commence à m'intéresser à ce métier, à son métier au départ, et puis à ce métier plus largement. Et d'autant plus pendant le confinement, mais on y reviendra après, un peu après, je pense.
Donc c'est finalement une reconversion, et vous, c'est un projet initial, en fait, Baptiste. Vous avez toujours fait ça dès le bac, mais vous, par contre, c'est une reconversion vers l'ébénisterie.
Oui, exactement.
Et du coup, votre bébé, un peu le projet, l'issue de votre rencontre et de l'ébénisterie, c'est Glu. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Quel est le projet, quelle est la vision que vous avez en créant Glu?
Alors du coup, moi, je me suis pas lancé tout de suite après les études. J'ai travaillé un petit peu sur Paris en conception et en développement dans une toute petite structure. On était 3, donc il y avait du marketing aussi à faire. Il y avait pas mal de choses, tout ce qui tournait autour du travail global d'un projet, d'une marque. Et donc là, j'ai appris beaucoup. Je suis resté 4 ans chez Moiroom, donc c'est le nom de l'entreprise. Et on éditait des designers néo-zélandais, donc il y avait déjà une approche éco-responsable vraiment très poussée à l'époque, pour l'époque. Et donc j'ai énormément appris, mais j'avais envie de retourner à l'atelier, puisque là je faisais vraiment que de la conception. L'idée était de revenir en Normandie, là où il y avait de la place, pour pouvoir monter l'atelier.
Et à quel moment dans ce projet, du coup, Mélissa vous rejoint et vous décidez de vous lancer tous les deux dans cette aventure?
Alors un petit peu plus tard, donc à ce moment-là, on est ensemble depuis quelques temps, et elle vit à Paris et moi je vis déjà à Rouen en Normandie, et je décide de monter Glu avec du coup mon ancien associé. Et à ce moment-là, l'idée est de faire de l'agencement et de développer une propre collection et de vivre de ça à terme. Donc voilà, on lance le bébé, ça commence plutôt bien, ça fonctionne, et après on a décidé de se séparer, de scinder l'entreprise en deux parties différentes, donc lui la partie agencement et moi la partie du coup collection avec le développement de nouveaux produits. Et à ce moment-là, Mélissa, je te laisse continuer.
Et du coup, ils décident donc de se séparer. Ça tombe au même moment que le confinement. J'avais mon activité de mon côté, j'avais monté mon entreprise aussi de mon côté. Rien à voir, encore une fois. Je faisais de la vente à domicile de produits de créateurs. Donc mon activité pendant le Covid est totalement à l'arrêt. Et Baptiste, lui, avec Glu, a une grosse commande pour un client. Donc il m'emmène à l'atelier à ce moment-là. Et donc je commence à l'aider. Au départ, je fais un peu d'emballage, j'aide sur des petites tâches. Et puis en fait, on avait beaucoup de produits à faire. Et donc je commence à l'aider vraiment sur les machines et puis à mettre vraiment la main à la pâte. Donc c'est comme ça que j'intègre vraiment le projet. Et donc après on déménage et Baptiste recrée un atelier et là je vais vraiment participer pleinement à l'activité de l'entreprise. Et en septembre, donc septembre 2020, on se dit bon bah est-ce que je vais pas faire un diplôme et vraiment me former. Donc on regarde les écoles qui sont en apprentissage et on découvre La Bonne Graine, mais on en avait déjà entendu parler avant, on avait rencontré quelqu'un sur un salon de La Bonne Graine. Voilà.
On était déjà identifiés et connus.
Voilà.
Et du coup, ce choix de l'alternance, finalement, cette reconversion via l'alternance, alors que vous auriez pu choisir peut-être une reconversion réelle, entre guillemets, en un an, pourquoi, du coup, décider de vous investir pendant 2 ans dans de l'alternance pleine?
Bah, pour ma part, ce qui était intéressant, c'était du coup de pouvoir garder Mélissa au sein du projet, au sein de l'entreprise aussi, qu'elle ait déjà son pied dans l'entreprise et qu'elle puisse déjà apporter des choses, parce que avec toute son historique en marketing, etc., c'était hyper intéressant. Elle était là déjà à l'origine du projet, donc je voulais pas la perdre pendant cette période. Donc c'est une super méthode pour être à la fois en entreprise et à la fois se former techniquement, en fait.
Ouais, exactement. On a vu que des avantages à ce que je puisse être à la fois en cours et puis revenir en entreprise. Puis le rythme aussi était intéressant de partir qu'une semaine. Voilà, je ratais pas trop de choses en entreprise par rapport à d'autres écoles éventuellement.
Du coup, Mélissa rejoint l'équipe de Glu et vous rejoint Baptiste sur ce projet. Cette année, c'est le CAP, ça y est, vous êtes au bout des 2 ans de votre alternance. Vous avez aussi une nouvelle apprentie qui a rejoint l'école cette année en première année. Du coup, Glu prend de l'ampleur, prend de l'essor. Le projet en est où aujourd'hui? Quel est le type de production que vous faites aujourd'hui?
Alors du coup, aujourd'hui, on est 7 sur le projet. Donc on est nombreux à l'atelier. On a aussi Agathe qui travaille sur la communication. Actuellement, on a un plus grand atelier. On a déménagé il y a 6 mois maintenant. Donc ça prend de l'ampleur. Donc c'est vraiment chouette à voir. Et on continue de développer la collection avec des nouveaux produits régulièrement.
Sur le projet, en effet, donc on est toujours en train de développer, parce que on est sur un modèle, nous, donc on dessine et on fabrique nos objets. Donc Baptiste est le designer, et puis on vient aussi peut-être un peu tous mettre la main à la pâte, enfin voilà, donner notre avis. Et on distribue nos produits de 2 façons. Donc on est revendu donc sur notre site internet et aussi via un réseau de revendeurs.
Effectivement, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans l'approche de l'ébénisterie classique comme vous aviez peut-être au départ avec votre associé, où on est sur le client qui vient directement à l'atelier faire une commande particulière, mais sur une proposition de vente diversifiée. Est-ce que ça, à votre sens, c'est un petit peu la singularité de votre projet, ou peut-être l'avenir aussi de l'ébénisterie, de passer par des moyens de distribution différents, de toucher le client de manière différente?
Ouais, je pense que c'était aussi quelque chose qui me représente, le fait de pas forcément travailler pour une personne pendant X temps. Oui, le fait de montrer l'objet et de pouvoir le distribuer de cette manière.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec un des professeurs. C'est vrai que c'est intéressant, ce modèle, parce qu'on n'est pas dans l'attente du client, Quand Baptiste faisait tout cet aspect sur mesure, c'était aussi ça que je trouvais long et fastidieux, de se déplacer chez le client, de faire des devis, et au final c'est beaucoup de temps et parfois un petit peu d'échec, alors que là on est sur un modèle qui est totalement différent, où on va dessiner nos produits, les produire et puis les stocker, et après il reste à communiquer auprès de nos clients, donc sur les réseaux, auprès de nos revendeurs, et c'est comme ça qu'on distribue. Et donc c'est vrai que c'est une forme plus efficace peut-être aussi de pouvoir distribuer les produits.
Ouais, c'est une manière aussi de rendre accessible l'artisanat, en fait, en créant des produits qu'on sait fabriquer. On va optimiser depuis le dessin, donc à l'atelier, on sait qu'on a les machines pour. Et ensuite, comme on crée en petite série, du coup, on fait des objets en volume, donc ça nous permet de réduire le coût et de bien optimiser tout le process.
Ouais. Et dans ce process de fabrication, c'est vrai que Baptiste, il tend toujours à aller vers de la simplicité pour le process de fabrication, mais c'est aussi un peu dans son ADN de designer. Il aime bien le minimalisme et à chaque fois qu'on veut ajouter quelque chose, il est tout le temps en train de nous dire est-ce que ça va vraiment servir le produit. Déjà, ça va être plus compliqué à faire en fabrication et est-ce que au final ton produit va être valorisé par cet élément. Donc ça fonctionne bien à l'atelier, sa façon de travailler.
Oui, la devise à l'atelier, c'est simple et efficace. Voilà, on va à l'essentiel.
C'est une bonne devise, très clairement. Et vous avez parlé tout à l'heure dans votre parcours aussi de cette sensibilité à l'écologie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait partie de votre projet ou que vous aimeriez pouvoir intégrer plus à votre projet peut-être ?
C'est quelque chose qui est à l'origine du projet aussi. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup là où j'étais quand on a distribué des designers néo-zélandais, c'est qu'ils avaient déjà cette approche. Et je pense que j'ai réussi aussi à la retranscrire dès le début. On fait vraiment attention à tout, au transport, à l'emballage, à ce qu'on utilise comme matériaux, où on les source. Je réfléchis à comment on peut aller plus loin dans tout ça, mais je trouve qu'on a déjà fait des belles étapes.
Ouais, ça c'est vraiment essentiel, je pense, quand on monte. Enfin, c'est même plus une question à se poser quand on monte une entreprise aujourd'hui. Il faut forcément avoir le minimum d'impact, que ce soit sur des choses toutes bêtes comme l'emballage. Il faut que tout soit au moins recyclable. Essayer d'en avoir le moins possible. Et en effet, sur les matériaux aussi, on utilise nous des essences du coin de Normandie. Donc c'est du chêne et du châtaignier. On va les acheter directement à la scierie Normandie Bois. Et eux, ils se sourcent dans les forêts aux alentours et ils vont choisir les arbres. Et donc c'est vraiment du local. Déjà sur cette partie-là, il y a très peu de transport. On n'utilise pas du tout d'essence exotique ni d'essence étrangère. Et pour ce qui est la finition, on a privilégié dès le départ les huiles qui sont plus faciles à appliquer et aussi un peu moins nocives. Et plus naturel.
Et du coup, l'évolution dans l'avenir, GLU, dans 5, 10, 15 ans, vous avez déjà une idée du chemin que vous allez prendre, des projets à venir ?
Pour l'instant, l'idée, c'est de stabiliser un petit peu l'activité, puisque là, on a fait un petit boom depuis un an et demi, donc on est très content. On va essayer d'augmenter un petit peu les volumes, développer la collection, et surtout bien structurer l'équipe, être sûr qu'on puisse tous en vivre de ce projet, et puis continuer à faire grandir le bébé tranquillement.
Ouais, c'est vrai que là, en un an, au final, en septembre 2020, quand moi je rejoins le projet, enfin quand on se lance à nouveau tous les deux, on est très peu. On est avec Agathe qui nous suit et qui gère la communication, et on a embauché là pendant l'année 2021. Donc on a grandi assez rapidement, donc c'est plein de choses à mettre en place, des déménagements, de l'achat de machines, des process à mettre en place quand même. Donc en effet, on est en train d'essayer de stabiliser tout ça. Moi, c'est vrai que j'avais aussi l'alternance à gérer, les cours. Donc l'année prochaine, en septembre, je pense qu'on va trouver vraiment notre équilibre dans l'entreprise avec nos rôles à tous.
Bien établi, bien défini, ouais. Et le diplôme en poche.
C'est ça.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur GLU ? D'où vient le nom de GLU ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors GLU, en fait, le nom, c'est du patois normand, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ça signifie la paille de seigle qui est sur les chaumières. Donc les chaumières qui sont un peu les habitats normands un peu typiques. Donc voilà, c'était pour faire un clin d'œil à la région normande dans laquelle on s'est installé, et aussi un clin d'œil au fait qu'on parle de la maison et de tout ce qui gravite autour de la maison.
Et quels sont les produits que vous développez à travers GLU ? Est-ce que vous avez un produit phare ?
Alors du coup, on a clairement un produit qui fonctionne, qui a fonctionné dès le début et qui fonctionne très très bien. Ce sont des petites étagères photo en châtaignier et en laiton. Donc elles ont été conçues suite à une problématique. En fait, on s'est rendu compte que les photos, on avait du mal à les exposer. En fait, elles restent souvent dans les albums où elles sont posées quelque part sur une table ou sur une console. Donc l'idée, c'était de pouvoir les exposer. Donc à l'origine, on avait créé un petit asso avec une ficelle pour les accrocher au mur de manière simple et de pouvoir les changer. Et puis c'est devenu un vrai produit, on l'a redessiné, on y a ajouté une petite barre en laiton qui a remplacé la ficelle, et on a travaillé de sorte à ce que le profilé en bois maintienne bien la photo, etc. Et ça fonctionne aussi pour des cartes postales. L'idée, c'est vraiment de pas figer en fait la décoration qu'on a, de pouvoir renouveler en fait, contrairement à un tableau qui est derrière un cadre ou une photo derrière un cadre. Donc ça fonctionne super bien, on a différents formats, donc ça plaît beaucoup, ça permet de composer dans son salon, au-dessus d'un lit, un peu dans toutes les pièces de la maison.
Et à l'origine, moi j'étais, quand ils ont lancé ce produit avec son ancien associé, moi j'étais chez Yves Rocher encore, donc un panel de consommatrices énorme. Donc je leur présente ce produit, et elles me disent « Ah j'adore, c'est une super idée, mais alors par contre s'il faut faire des gros trous dans les murs, c'est vraiment rédhibitoire. » Donc moi je fais remonter cette information au bureau d'études. et donc là, ils ont trouvé un système pour simplement venir clouer l'étagère en fait au mur, ce qui nécessite pas de sortir l'artillerie pour poser son étagère, et juste un petit marteau et des clous en laiton.
Pour que le citadin et la citadine moyenne puissent accéder facilement dans son appartement de location à la déco de designer.
Et de ce produit-là, après, on a commencé à aussi, avec Baptiste chez nous, on avait des fleurs séchées qui traînaient, on se disait, ah bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de mettre des fleurs séchées sur l'étagère? Et en fait, on s'est dit, bah ça pourrait être un nouveau besoin, en fait, d'accrocher des fleurs séchées différemment au mur. Et donc de là, Baptiste a commencé à réfléchir à un produit qui répondrait à cette problématique qu'on s'était créé tout seul, mais qu'on imaginait pouvoir être un objet qui fonctionnerait chez beaucoup de gens.
On s'est raconté une histoire où on allait se balader un petit peu au bord de la mer ou en forêt, ramasser quelques brins de fleurs et pouvoir les accrocher, les faire sécher, les accrocher chez soi en rentrant, un peu comme un souvenir de balade. Et du coup, j'ai réfléchi à comment maintenir ces fleurs. Est-ce que ça serait avec des perçages, avec une pince, comment ça peut fonctionner? Et du coup, au final, on a retravaillé la queue d'aronde, de sorte à créer une glissière et une pince pour pouvoir y positionner les brins de fleurs. Donc voilà, un objet qui est très simple et qui est intéressant parce qu'il revisite un peu les assemblages traditionnels. Donc ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup plu dans ce projet.
Et pour la création de produits, Baptiste s'inspire beaucoup de ce qu'il voit. On essaye d'identifier des besoins. On parle à des gens. On a beaucoup de retours aussi. Là, par exemple, on va sortir un nouveau produit. En fait, on nous avait remonté que les superposes, donc c'est nos étagères photos, étaient super, mais que les gens aimeraient aussi le même principe en fait pour pouvoir mettre des cadres et des éléments un peu plus lourds. Donc là, on va bientôt sortir la mégapose. Donc c'est vraiment la plus grosse étagère qui répond à ce besoin-là. Voilà, donc on essaye d'intégrer aussi ce qu'on nous remonte dans le développement de la collection.
Et ce dialogue que vous avez, justement, ces infos qu'on vous fait remonter, ça passe par vos clients en direct, ça passe par vos réseaux sociaux, ça passe par les revendeurs?
Je dirais que ça passe beaucoup avec les échanges qu'on a de nos clients sur Instagram, aussi les copains quand on va boire un verre le soir, et qu'on parle de ce qu'on a fait, ou de eux qui ont le produit chez eux et qui nous disent « j'adore ce produit, mais ça marche pas avec les vinyles, ou ça ne marche pas avec les cadres, c'est tellement dommage, faut faire quelque chose. Ouais, je sais pas où mettre mes clés quand je rentre, et j'ai rien trouvé d'intéressant, bon, faut faire quelque chose. »
Et hop, c'est vous qui vous y collez.
On a ces petites pistes-là, ça nous permet de nous orienter, ouais.
Et ce qui est assez chouette, bon, il faut prendre du temps de dessiner des choses, mais c'est vrai que ce qui est cool, comme on est nous à la maison le soir, ça nous est arrivé de pendant l'apéro de commencer à dessiner des produits. Enfin voilà, on parle souvent de forcément boulot, mais voilà, cet aspect dessin, il est assez chouette dans d'autres moments qu'au travail aussi, donc.
Ce qui fait aussi que vos pièces sont adaptées aussi à la vraie vie, entre guillemets, au quotidien, puisque vous les créez pendant votre quotidien, finalement.
Exactement, ouais.
Ouais, on se rend compte qu'on est presque plus créatif à la maison ou en vacances qu'au travail. Au final, au travail, on est bon sur les aspects techniques et en dehors, c'est là où on apporte un peu de poésie dans tout ça.
Ouais. Et du coup, le rapport avec la communication, qui est très moderne dans votre entreprise, qui est très efficace, qu'on voit pas forcément beaucoup dans l'artisanat aujourd'hui. Pour vous, c'est indispensable, c'est normal, ou c'est un effort, un pari que vous faites, mais très peu d'artisans osent se lancer vraiment sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Encore même les apprentis ont assez peur en fait de ces réseaux sociaux-là. Voient pas forcément l'intérêt.
Ben, en fait, chez nous, ça s'est fait assez naturellement puisqu'on a accueilli Agathe en communication qui était en alternance justement au bout d'un an chez Glu. Voilà, on lui a donné carte blanche presque pour énormément de choses et du coup, elle a pris ça en main très sérieusement. Et du coup, elle s'est perfectionnée dans les photos. C'est elle qui a fait vivre le compte, les différents comptes sur les réseaux sociaux. Et elle y travaille tous les jours. Elle prend beaucoup de plaisir à ça. Et nous, on joue le jeu de tout ça. Et donc, ça nous fait beaucoup rire.
Ouais, elle, c'était des produits qu'elle aimait, je pense, au départ. Et donc, en fait, qu'elle a fait vivre comme elle aurait voulu les trouver, je pense, sur son compte Instagram. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné parce qu'elle s'est adressée à nos clients comme si elle était cliente. Et donc après, elle est aussi très très créative. Et donc, c'est ça qui a fait que les photos sont très belles. Là, c'est vrai qu'elle développe un petit peu la vidéo et ça fait vraiment vivre l'atelier. On montre un petit peu les coulisses. C'était aussi un petit peu ça l'idée derrière Glu, c'était vraiment de pouvoir montrer un peu les coulisses de ce qu'on fait parce que on a l'avantage de tout faire, donc on peut tout montrer et c'est ce qui donne aussi de la valeur au produit aujourd'hui, je pense. Les gens, ils ont besoin de comprendre comment ça a été fait, d'où ça vient, qui l'a fait. Et là, vraiment, on pourrait même inscrire nos prénoms sur les packaging pour dire qui a réalisé ce produit parce qu'on est vraiment une petite équipe
Mais on a cette traçabilité-là, vraiment, de la forêt à la livraison chez le client ou la cliente.
Oui, on remet aussi l'humain au cœur des process de fabrication aussi. Et ça, c'est important, je pense, de montrer qu'il y a des gens derrière les objets. Et c'est pas juste un objet qu'on achète et puis qu'on jette, on en rachète un autre. Et ben non, il y a des gens qui ont fait et qui ont mis du cœur. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir se dire qu'on a quelque chose chez nous qui a été fait des mains de quelqu'un et qui a mis du cœur. Voilà, et ça fait des objets qu'on a envie de garder, en fait. Donc, c'est important de communiquer dessus et de montrer tout ça.
On met une petite phrase sur notre communication. On dit « cet objet a été fait pour durer et être aimé ».
Je pense que ça résume très bien, effectivement, l'esprit de l'artisanat et de l'artisanat d'art, version 2022. Bravo pour votre super projet et bravo pour ce projet d'alternance aussi qui marche bien et qui vous a permis d'intégrer l'entreprise tout en développant vos connaissances et vos compétences. On peut vous souhaiter que ça continue finalement.
Ouais.
Merci.
Merci de nous accueillir.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.